Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il est un magistrat du XVIIIe siècle qui avait prédit, et aurait peut-être pu empêcher, la Révolution française. Défenseur de la royauté, mais surtout de la justice, il souhaitait la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Je vous présente celui qui a passé une robe et ne s'est jamais dérobé, l'illustre Malesherbes. Dans la salle du palais de justice de Paris trône une statue que Louis XVIII fit élever en 1821 en l'honneur d'un brillant magistrat. On peut y lire l'inscription suivante « Fidèle et toujours prêt à servir son roi, il lui donna la vérité quand il était sur le trône, de la protection quand il était captif. Fidèle à son roi, certes, mais Malesherbes était avant tout un défenseur acharné de la justice. C'est pour cette raison que le sculpteur a pris quelques libertés avec l'histoire. » Représenté au moment du procès de Louis XVI, Malesherbes ne devrait pas porter de robe tenue proscrite par la Révolution. Mais il la mérite bien, car toute sa vie il a porté celle de magistrat, mieux que n'importe lequel de ses confrères. Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes naît à Paris le 6 décembre 1721. Il est issu d'une famille de la grande robe parisienne, fils du futur chancelier de Lamoignon. À Louis le Grand, il suit les leçons du père Porré, un enseignant d'une grande humanité. Voltaire, qu'il a connu aussi, peut en témoigner. À 20 ans, Malesherbes, oui, appelons-le comme cela, pour gagner un peu de temps, fait son entrée dans la magistrature et gravit les échelons pour devenir bientôt le premier président de la Cour des aides de Paris. En parallèle, il étudie les sciences naturelles et se passionne pour la botanique. Il écrit sur la question agricole, apprécie la démarche philosophique et même la marche qu'il accompagne avec ses promenades tout en rêverie. Une passion qu'il partage avec Rousseau, qui devient son ami. Les deux hommes partagent aussi leur goût pour la liberté de penser, les idées de justice et d'humanité. Rousseau, comme les autres philosophes des Lumières, a bien de la chance d'être ami avec lui. Car Malesherbes devient directeur de La Librairie en 1750. La Librairie, c'est la police du livre et de la censure. Pendant 13 ans, il fait la pluie et le beau temps dans le monde de l'édition. C'est grâce à lui que l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, comme elle était nommée, voit le jour. Mais lorsqu'elle est attaquée par les jésuites qui la jugent dangereuse, Malesherbes n'a pas d'autre choix que de l'interdire, mais il propose à Diderot de venir cacher le manuscrit chez lui. Ici, au moins, personne ne viendra le chercher. En 1763, Malesherbes quitte la librairie en soutien à son père, obligé de quitter ses fonctions au profit du magistrat Maupeou. Le nouveau président du Parlement de Paris prône un retour à l'absolutisme et est bien décidé à reprendre en main le pouvoir judiciaire. En 1771, il destitue et exile les 130 magistrats du Parlement de Paris. Face à ce spectaculaire coup de force, Malesherbes doit réagir. Il adresse aussitôt des remontrances à Louis XV. Imprimées clandestinement, elles connaissent un succès immédiat. Il faut dire que Malesherbes prend la défense du peuple et dénonce sans détour le despotisme, écrivant que Dieu ne place la couronne sur la tête des rois que pour procurer aux sujets la sûreté de leur vie, la liberté de leur personne et la tranquille propriété de leurs biens. Après avoir dit ce qu'il pensait, Malesherbes est exilé sur ses terres à Pithiviers, ce qui ne fait qu'accroître l'enthousiasme du public éclairé et incite le magistrat à ne pas en rester là. En 1774, Louis XV meurt et laisse la place au jeune Louis XVI qui très vite rappelle les magistrats. Malesherbes devient secrétaire d'État à la Maison du Roi. Il a donc la charge de la ville de Paris, la police, les droits de douane et surtout de la question des prisons qui l'intéresse particulièrement. Malesherbes a été profondément marqué par l'affaire Monnerat. Un petit rappel des faits. Un marchand forain s'est retrouvé emprisonné du jour au lendemain, sans autre forme de procès, dans des conditions inhumaines. Cela à cause d'une lettre de cachet. Profondément arbitraire, la lettre de cachet permet de jeter n'importe qui au cachot pour n'importe quel motif. Résultat, des innocents croupissent dans des cachots insalubres. Malesherbes le sait. Il a visité ceux de la Bastille, de Bicêtre, de Vincennes. C'est une véritable croisade qu'il entreprend contre les abus de justice et la lettre de cachet. Mais son combat est difficile à mener. On ne l'écoute pas. Malesherbes écrit de nouvelles remontrances à Louis XVI en mai 1775. Il propose entre autres de réduire les dépenses publiques pour éviter la ruine du pays. Mais encore une fois, on ne l'écoute pas. Il démissionne l'année suivante et retrouve les plaisirs d'une vie simple consacrée à la botanique. Ses plantes ont l'air plus attentives à ce qu'il dit que les gouvernants de son pays. En 1787, Malesherbes est rappelé aux affaires. Que faire ? Il pourrait refuser, mais le problème, c'est que la France est au bord du chaos. Sur le plan économique, la banqueroute est proche. Et sur le plan politique, la déchirure est totale. Impossible de rester à Pithiviers dans ces conditions. Malesherbes revient avec le titre de ministre sans portefeuille. Il assiste impuissant à l'enlisement du pays. Deux mesures ont néanmoins été prises grâce à lui. L'édit de tolérance religieuse et l'abolition de la torture en 1788. Encore une fois, il veut dire la vérité. Il le fait dans trois mémoires où il réclame justice et liberté, ainsi que la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Au début du premier mémoire, Malesherbes écrit « Je ne me mets en avant pour lui dire de tristes vérités que parce que je vois un danger imminent dans la situation des affaires, que je vois se former des orages qu'un jour toute la puissance royale ne pourra calmer et que des fautes de négligence et de lenteur qui dans d'autres circonstances ne seraient regardées que comme des fautes légères peuvent être aujourd'hui des fautes irréparables qui répandront l'amertume sur toute la vie du roi et précipiteront son royaume dans des troubles dont personne ne prévoit la fin. » Personne, non, sauf lui. Ces paroles sonnent comme une prophétie. Les troubles qu'évoque Malesherbes prennent forme avec la Révolution. Quand elle éclate, le magistrat coule une paisible retraite sur ses terres du Loiret, entouré de ses enfants et petits-enfants. Il salue la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'abolition des privilèges qui répondent à ses aspirations humanistes. Mais il sent que ces mesures ne suffisent pas à apaiser la colère qui gronde au sein du mouvement révolutionnaire. Il a raison. La Convention s'apprête à juger le roi. En juin 1792, le despotisme a changé de camp. Malesherbes est sincèrement attaché à son souverain. Alors, il rentre à Paris, cette fois pour défendre son ancien maître, aux côtés des avocats Denis Tronchet et Raymond de Sèze. À 71 ans, son courage est intact, sa détermination aussi. Mais cela ne sert à rien. Le sort du roi était joué bien avant le procès. Malesherbes raconte comment il a prévenu Louis XVI du terrible châtiment décidé par ses sujets. « Ce fut moi qui, le premier, annonçais au roi le décret de mort. Il était dans l'obscurité, le dos tourné à une lampe placée sur la cheminée, les coudes appuyés sur la table, le visage couvert de ses mains. Le bruit que je fis le tira de sa méditation. Il me fixa, se leva et me dit « Depuis 2 heures, je suis occupé à rechercher si dans le cours de mon règne, j'ai pu mériter de mes sujets le plus léger reproche. » « Eh bien, monsieur de Malesherbes, je vous le jure dans toute la vérité de mon cœur, comme un homme qui va paraître devant Dieu. J'ai constamment voulu le bonheur du peuple, et jamais je n'ai formé un vœu qui lui fût contraire. » Sur ces mots, le roi est décapité, le 21 janvier 1793. Malesherbes ne cache pas son désespoir et ses remords. Quelques jours plus tard, des membres du comité révolutionnaire viennent le quérir en ces terres. Condamné pour des crimes imaginaires, il subit le même sort que son souverain le 22 avril 1794. Un témoin raconte qu'il marcha à la mort avec une sérénité qui ne peut être comparée qu'à celle de Socrate. Son pied ayant rencontré une pierre lorsqu'il traversait la cour du palais, les mains liées derrière le dos, il dit à son voisin « Voilà qui est d'un fâcheux augure. À ma place, un Romain serait rentré chez lui. » Tout au long de sa vie, Malesherbes ne s'est jamais caché et s'est battu pour dire haut et fort ce que d'autres pensaient tout bas ou ne disaient pas. En 1802, Napoléon Ier établira par décret le port de la robe qu'avaient interdit les révolutionnaires. Mais il se raconte depuis que les avocats parisiens ne peuvent plus porter l'hermine car ils n'ont pas réussi à sauver leur roi.
Europe 1, historiquement vôtre.